science alors !
Nous venons de recevoir du professeur Albert Einstein une lettre sur papier en tête de l'Institute of Advanced Study, School of Mathematics, Princeton, New Jersey.
Encore impensable il y a quelques décennies, la navigation dans l'espace extraterrestre est à l'ordre du jour.
It is intelligence which is the ability to learn from experience, to plan ahead.
La question se pose, quelle sera la machine parlante de l'avenir ?
Bonsoir, vous êtes dans l'émission Science Alors sur Radio Campus 93.3, la seule émission qui fait dialoguer les scientifiques, tous les scientifiques, les anthropologues, les historiens, les géographes, les physiciens et les mathématiciens autour d'un thème commun. Et aujourd'hui, dans Science Alors, notre thème c'est « Sciencibilité ».
La plupart des domaines scientifiques sont tôt ou tard confrontés aux réalités de l'univers qui nous entoure, soit parce qu'ils cherchent à en modeler le fonctionnement, soit parce que le réel devient un domaine d'expérimentation de la discipline. Cette relation des sciences à l'observation, et donc au sens, a toujours été au cœur des démarches scientifiques. Ainsi, Diderot résumait le rôle de chacune des étapes de l'activité scientifique par le triptyque suivant : l'observation recueille les faits, la réflexion les combine, l'expérience vérifie le résultat de la combinaison. Le scientifique a donc une relation très étroite avec ses capacités sensorielles et nombre d'outils d'expérimentation ne sont que des extensions et des amplificateurs des réalités qu'il cherche à mesurer. Et quand arrive le moment de communiquer sur ses travaux de recherche, ces outils d'exploration deviennent naturellement des vecteurs efficaces de la vulgarisation. L'on demandera toujours à un biologiste l'autorisation de regarder par-dessus son épaule dans la lunette du microscope pour saisir la complexité des relations intracellulaires. On favorisera l'utilisation d'illustrations schématiques pour synthétiser un concept abstrait. Si le scientifique maîtrise les outils propres à son domaine d'expertise, il n'est cependant pas nécessairement le plus à même de manier les différents médias sensitifs pour présenter ses réflexions, et la formalisation trop rigide qui fait son quotidien est bien souvent trop obscure pour qui est éloigné du domaine. A l'inverse, ce sont les artistes qui maîtrisent les médias de création et d'expression sensorielle, ce sont eux qui savent activer notre conscience et notre compréhension de spectateurs grâce à leur expressivité. C'est donc naturellement que l'on aurait envie de voir se rapprocher ces deux univers, le monde scientifique pour l'explorateur d'un univers complexe et les artistes comme vecteurs de diffusion et de vulgarisation. Malheureusement, dans les laboratoires à travers le monde, il semble que ces pratiques soient peu développées et que soit souvent le scientifique qui s'improvise artiste. Que peut être le rôle des artistes au voisinage de la science ? Peuvent-ils rendre les explorations scientifiques perceptibles par tous ? Et par effet miroir, peuvent-ils rendre les scientifiques plus sensibles à l'impact de leurs travaux sur la place publique ? Voici quelques-unes des questions que nous aborderons dans cette émission intitulée « Sciencibilité » ou « Comment rendre la science sensible ?»
Alors nous allons parler ce soir avec nos deux invités. D'abord Claire Planchat, bonsoir.
Bonsoir.
Alors Claire Planchat, vous êtes géographe et vous travaillez en collaboration avec un collectif d'artistes, notamment dans le cadre du festival du Haut-Livradois. Et puis nous avons également en studio Pierre Bonton, bonsoir.
Bonsoir.
Alors Pierre Bonton, vous êtes physicien, mais vous êtes aussi président de plusieurs associations, Astu Science, l'association Arts, donc Art, Recherche, Technologie et Science, et vous êtes également responsable de l'atelier Théâtre et Science au SUC de l'université Blaise Pascal.
Et d'Auvergne.
Et d'Auvergne, voilà. Bien. Alors pour aborder ce débat, nous vous proposons en fait d'entendre un petit extrait d'une interview que j'avais fait il y a 2 ans à peu près, interview d'un historien qui est Gérard Noiriel. Alors Gérard Noiriel, c'est un historien assez inclassable puisqu'il a eu... Il a touché à différents domaines d'études, mais c'est lui, par exemple, qui a lancé le grand chantier historiographique sur l'histoire de l'immigration après s'être intéressé l'histoire du mouvement ouvrier. Et je l'ai interviewé à propos d'un livre qu'il avait écrit à l'époque, qui était sorti à l'époque, et qui s'appelait Dire la vérité au pouvoir, les intellectuels en question. Donc un livre sur le rôle des scientifiques et des intellectuels en général dans l'espace public. On pourrait se dire que les savants pourraient être tentés de se replier dans leur tour d'ivoire et de se contenter de dialoguer seulement avec leur père. Alors, à votre sens, pourquoi est-ce utile justement d'essayer de sortir de ce monde confiné ?
Comme je l'ai dit aussi, en essayant toujours de jouer cette carte de la sincérité, qui est aussi une forme de vérité, c'est que je pense que ces questions-là, vous voyez, on ne les tranche pas intellectuellement ou scientifiquement. Ce que je dis, c'est-à-dire, ce sont des nécessités impérieuses. C'est-à-dire, moi, je me suis engagé, je dirais, à corps perdu ou à esprit perdu dans la science parce que je pensais que ça pouvait être utile. J'avais besoin de croire à ça pour pouvoir faire ce métier, vous voyez. Parce que justement, j'avais été l'étudiant de gens comme Michel Foucault, de Pierre Bourdieu, et je voulais ressembler à ce modèle-là. Et c'est peut-être après le travail, que je montre aussi que c'est assez fréquent, du désenchantement par rapport à cette croyance dans l'utilité, mais ça n'empêche pas, si vous voulez, c'est un peu comme l'ordre du pari pascalien, c'est-à-dire que, voilà, c'est une croyance, mais nous sommes tous engagés dans des croyances, et cette question de l'utilité, même si on ne peut pas la démontrer scientifiquement, ça reste une option qu'il faut que certains assument, je dirais. Et je comprends aussi qu'une bonne partie de mes collègues n'éprouvent pas forcément cette nécessité, ce besoin-là, mais pour ma part, voilà, même en dépit du sentiment de faible impact qu'on peut avoir dans nos recherches, je le maintiens parce que c'est une... c'est aussi un besoin que j'ai par rapport à mon travail. Je ne pourrais pas m'imaginer écrire que mes recherches scientifiques ne soient destinées qu'au petit cercle des initiés, si vous voulez. Mais voilà, mais cette question-là, effectivement, je me la pose quand même constamment en me disant quelle est la meilleure voie aussi de l'utilité, voyez ? Parce que je ne veux pas brader non plus la complexité, le sérieux de ma recherche, donc je réfléchis beaucoup à la question de la transposition. Donc c'est pour ça que je travaille en ce moment par exemple avec des artistes, pour trouver des modalités de langage que moi je ne connais pas, mais que les artistes connaissent, de façon à transposer ce savoir et le rendre accessible au plus grand nombre.
Alors, Claire Planchat, Pierre Bonton, peut-être on va vous demander vos réactions par rapport à ce que disait Gérard Noiriel. Et peut-être d'abord, est-ce que vous pensez également que l'art est un bon vecteur de transposition des résultats de la recherche dans l'espace public ? Alors, Pierre Bonton.
Moi, je veux bien répondre, mais je vais peut-être vous surprendre, je ne vois pas de différence entre l'art et la science, quoi. C'est deux choses qui sont un scientifique et artiste et un artiste et aussi scientifique. C'est plutôt dans la démarche que qu'il y a des différences. Il y en a une qui est, comme l'a bien expliqué, qui est centrée sur des spécialités avec ce qui a été dit auparavant, l'observation, on peut rajouter la modélisation et puis la vérification, hein. C'est ça. L'autre démarche artistique est plus individualiste. Mais les deux sont les mêmes. Dans le laboratoire, on a accueilli deux artistes. Et ces deux artistes, c'est un échange entre les deux. Les logiciels que l'on développe dans le laboratoire où je travaille leur servent parce qu'ils les prennent en tant qu'objet pour créer quelque chose d'artistique. Les logiciels, eux, qu'ils utilisent en tant qu'artistes, on peut aussi les utiliser pour développer notre aspect scientifique. Donc, je ne sais pas s'il y a vraiment une si grande différence. D'ailleurs, la différence, elle est très récente, hein, parce qu'avant, elle n'existait pas. Hein. Donc, il faut simplement la retrouver, il faut travailler ensemble. Moi aussi, je fais ça depuis 25 ou 30 ans, pratiquement, avec Théâtre et Sciences. Je fais ça aussi dans le milieu associatif. Et ce travail que l'on fait entre artistes et scientifiques, ça se passe plutôt bien. Et moi, je suis un artiste et l'artiste est aussi scientifique, hein, surtout avec les nouvelles technologies.
Alors justement, si on essayait de comprendre peut-être la différence qui fait qu'on utilise deux mots, est-ce que l'une des différences majeures, ce serait pas que le scientifique, il serait enfermé dans une petite boîte, il parlerait qu'à ses pairs, alors que l'artiste, il essaierait parler directement sur la place publique et moins qu'à destination de ses pairs?
C'est l'image que l'on a du scientifique. Hein. C'est vrai, ça disparaît de plus en plus. Il y a les bars des sciences qui existent, il y a des réunions citoyennes, il y a plein il y a la diffusion de la culture scientifique que, si on peut appeler une culture scientifique, la culture est générale, elle n'est pas seulement que scientifique ou artistique. Donc, d'ailleurs, c'est le ministère nous dit, on a 4 missions, hein, l'enseignement, la recherche, s'occuper d'administratif et la diffusion de la culture scientifique, pas seulement vers nos pairs. Hein. C'est plutôt les citoyens qui nous enferment dans notre tour. Nous, on n'a pas envie d'être enfermés dans les tours. C'est quelque chose la peur de la science, toutes ces choses que l'on développe dans l'histoire ou des sciences. C'est le scientifique, je vous promets qu'il n'y a pas de problème. Quoi. Il sort de son laboratoire. Ça, c'est une image du scientifique enfermé. Il y a tellement de conférences, tellement de choses qui se font vers le monde citoyen, tellement de relations entre l'artiste et le scientifique que ça fonctionne, à mon avis, plutôt bien. Quoi.
Je pense aussi que c'est une question de la blouse blanche. Il y a différentes sciences, différentes disciplines. On parle des sciences dures, des sciences molles. Alors moi, je fais partie des molles.
Humaines, alors humaines, disons.
Sciences humaines. Et c'est vrai que dans les sciences humaines, on a ce dialogue artiste-science, il est complètement empirique. Et aujourd'hui, en fait, je pense que c'est plus une fascination du public, mais aussi de certains artistes, à essayer de revêtir la blouse blanche et inversement des scientifiques à devoir vulgariser. Donc du coup, on essaye de construire ce dialogue en disant mais arrêtez, quand on est en sciences humaines, on n'a pas de blouse blanche. Et puis en plus, on peut dialoguer assez facilement et même on parle comme vous avec le même langage, même si parfois on a des gros mots un peu particuliers qu'on retrouve dans des livres, dans les dictionnaires, mais je vous assure, on peut se comprendre sans problème.
Et il y a une chose, on dit aussi, je suis complètement d'accord avec ça, hein. Moi je ne comprends pas un artiste comme je ne comprends pas un biologiste, c'est pareil, on est tellement hyper spécialisé que je ne vais pas comprendre un truc de science comme je ne peux pas comprendre, parce que si je n'ai pas la culture pour quelque chose d'artistique, d'art moderne ou des choses comme ça. Et il me faut que je fasse l'effort pour le comprendre. Donc ça va. Il y en a une qui est plus... l'art est plus à fleur de peau, c'est plus quelque chose une sensation. La science, c'est une autre sensation qui se construit différemment. Mais c'est aussi une sensation qui peut être épidermique aussi, la même chose. Hein.
Claire Planchet, allez-y.
Oui, je disais que par rapport à la citation de Diderot sur cette relation triangulaire entre l'observation, l'outil, la méthode, je pense que l'artiste observe parfois bien plus que le scientifique, et parce qu'il observe la société, ce qui est bien plus un labeur difficile que nous, on peut se focaliser sur une petite question. Et après, là où on va se retrouver entre l'artiste et le scientifique, c'est sur un outil ou du moins une production commune, et cette question de médiation, de vulgarisation, c'est vraiment ce moyen, ce vecteur qui pour nous va être intéressant et important de mutualiser.
Et alors que justement, vous deux qui travaillez en collaboration avec des artistes, est-ce que ces artistes, ils vous donnent des tuyaux, des pistes pour justement développer une approche sensible dans la vulgarisation de vos sciences? Est-ce que vous apprenez d'eux en fait?
On apprend énormément d'eux. Et c'est vrai que, bon, là, on a parlé, je suis obligée un petit peu du projet qu'on a fait, hein, avec le Festival du Haut Livre à Doigt. La particularité, c'est qu'on a utilisé la science pour aller montrer qu'est-ce que l'art. L'art non pas contemporain, mais l'art pour les contemporains de notre temps. Et donc, ce collectif d'artistes, en fait, c'est un collectif qui associe des musiciens, des plasticiens, des danseurs, des comédiens aussi. Donc, c'est le collectif Batik Production, et qui est implanté sur Saint-Germain-l'Herme et qui mène ce festival. Et donc, ça fait 35 ans que le festival existe. Et l'objectif, c'était de se rendre compte que les habitants du territoire du Haut-Livradois étaient dans un territoire assez rural. Moi, je suis géographe rurale. Et du coup, c'était de voir les moyens d'aller chercher les habitants pour leur faire participer sur le festival. Et du coup, on a utilisé la science, c'est-à-dire la géographie, à travers des enquêtes, des cartographies interactives, faire un dessin animé par les enfants, mais aussi les gens de la maison de retraite, pour leur expliquer qu'est-ce que leur territoire, qui est le mot du géographe, et l'utiliser, utiliser ces collectages faits par les habitants pour que les artistes produisent leur spectacle et leur performance.
Oui, donc, oui, très bien. C'est,
Pierre Bontemps.
Oui, Pierre Bontemps. C'est très bien par rapport à la question, encore une fois, c'est l'artiste, évidemment, le c'est, s'il y a un téléphone qui sonne sans arrêt, là.
Il y a ce problème de téléphone.
Rapidement. Donc, c'est évidemment qu'on apprend beaucoup d'un artiste, comme l'artiste peut apprendre beaucoup de la science, comme on peut apprendre beaucoup d'un littéraire, comme on peut apprendre beaucoup d'un philosophe. Et le fait de travailler ensemble, ça ne peut que nous enrichir mutuellement, ça c'est clair. Et donc, par rapport à toutes les expériences où il y a des artistes qui travaillent avec des scientifiques, ça peut être que bénéfique. Je pense qu'il y a une chose qui est importante, c'est qu'on confond souvent la science, la technologie, l'artiste avec ce qu'on en fait. C'est-à-dire, les gens, ce que font une découverte scientifique, c'est pas le scientifique qui en fait quelque chose, c'est le citoyen, c'est la technologie, c'est l'industriel, c'est le politique qui fait quelque chose de la science. Comme ce qu'on peut faire aussi d'un objet scientifique, l'objet artistique. Et c'est pourquoi il est cher, l'objet artistique. C'est parce que on en a fait un objet cher. Un objet cher, et puis le même objet qui serait fait par quelqu'un d'autre, ben il coûterait, on s'y intéresserait même pas. Donc il faut faire attention entre la science, comment elle travaille, que ce soit en géographie, en science électronique, robotique, là où je travaille moi, et ce qu'on en fait. Et c'est ça que retiennent plus les gens. C'est-à-dire, les gens, la science, c'est quoi? C'est, on en a peur, c'est parce que ça fait des bombes atomiques, c'est parce que ça fait des OGM, c'est parce que ça fait des robots, ça va perturber des emplois. Tout ça, c'est des questions de société. Et c'est des sociétés qui concernent à la fois l'artiste, le citoyen, le scientifique, etc. Mais le scientifique, lui, quand il développe quelque chose, ben, il développe quelque chose, quoi. Il fait des choses, quoi.
Alors, si on essaie de creuser cette différence, d'essayer de comprendre, alors vous amusez avec cette idée, l'auditeur, et puis nous aussi, même vous essayez de les leur faire réfléchir à ce rôle réel d'art par rapport à science. Il y a une différence entre les deux, de mon point de vue, et vous allez certainement dire que non, et puis ça va être vraiment très intéressant, et je suis impatient de savoir pourquoi.
Je vais peut-être dire oui.
Les scientifiques...
Je pense qu'on pense clair, mais bon, on va voir.
Je suis intrigué par cette idée. Les scientifiques manipulent des idées abstraites, et quand il s'agit de les communiquer à leur père ou à quelqu'un en général, ils ne sont pas maîtres de leurs outils. Ils sont maîtres de leurs outils, qui est la rédaction d'un article, typiquement pour leur père. Par contre, ils maîtrisent peu d'autres médias. À l'inverse, les artistes, ben justement, ils maîtrisent cet outil de diffusion. C'est même d'ailleurs comme ça qu'on les définit d'abord, comme plasticien, peintre, chanteur, voilà, compositeur. C'est-à-dire qu'ils maîtrisent avec voilà, c'est à ça qu'on les reconnaît même, c'est à ça qu'on dit un grand artiste, parce qu'ils maîtrisent un outil de communication. Est-ce que ça ferait une différence entre les deux ?
Ça, c'est vrai, complètement d'accord. Hein. Ça a été souvent, on hésite à communiquer sur notre science, sur notre technologie aussi, hein, parce que je pense aussi que les médias et le citoyen s'y intéressent peut-être moins, quoi. C'est-à-dire, pour qu'il y ait dialogue, il faut que ça soit dans les deux sens. Hein. On ne peut pas seulement accuser un scientifique de ne pas vouloir communiquer. Peut-être qu'il le fait très mal, parce que ça c'est vrai aussi, on le fait très mal, bien que dans les barres des sciences, la communication est plutôt intéressante. Hein. C'est vraiment une question-réponse avec le citoyen. Mais on n'a pas cette habitude de travailler avec les médias, parce que peut-être qu'on n'a rien à vendre de particulier, peut-être qu'on a... On travaille plus avec... peut-être qu'il faut faire la différence entre la recherche technologique, où on est avec le monde industriel, et puis la recherche fondamentale, où là, c'est quelque chose qui est très diffus, qui va peut-être déboucher sur quelque chose ou pas sur quelque chose. Et je sais pas, est-ce que ça intéresse les médias ? J'en sais rien.
Je
je suis pas d'accord. Moi, je suis pas d'accord parce que, en fait, en géographie, on travaille par exemple aussi beaucoup avec des paysagistes, des urbanistes, des architectes qui, dans leur métier, se doivent être créateurs, travailler sur le projet. Et du coup, dans ce cadre-là, en fait, ce que je dirais, ce qui différencie un petit peu et ce qui nous rejoint, c'est qu'en sciences humaines, notamment qu'on soit sociologue, historien ou géographe, on va chercher des instruments pour aller enquêter l'humain. Et si on va enquêter l'humain avec un microscope, on est mal barré parce que du coup, l'instrument ne convient pas. Donc ce qui est important, c'est d'avoir justement aujourd'hui, on développe de plus en plus des outils qu'on va appeler approches sensibles, outils sensibles. Moi, par exemple, j'utilise beaucoup le dessin, la vidéo, les blogs, le dialogue sur la modélisation 3D, donc du visuel, du graphique, pour permettre aux gens justement d'expliquer leur point de vue et nous donner une information, au même titre qu'on ferait une enquête ou une émission de radio. Et c'est là où du coup on se rejoint avec les artistes, notamment les artistes plasticiens, autour de cette question de la couleur, du visuel, du choix. Moi je travaille plus particulièrement sur la question du paysage, et en plus le paysage là on a dans un panel de sensibilité extraordinaire, et si je m'étais pas intéressée au volet sensible, artistique ou autre, je tombais dans le mur quoi. Enfin, ou alors j'avais une discipline qui était par exemple l'écologie du paysage ou l'étude de la faune, de la flore, la biologie, et je ratais tout ce qui était dans le cœur des gens du territoire, les gens qui vivent les lieux, et donc il me fallait mobiliser l'outil sensible pour aller recueillir cette information.
C'est pas tout à fait la réponse à la question. La question, c'était, moi je suis d'accord avec vous, absolument. Je veux dire que on retombe dans art et science, complètement d'accord. La seule chose, c'est est-ce que un scientifique, enfin en tant que scientifique, vous avez employé le mot dur, est-ce que il travaille beaucoup avec les médias? Est-ce qu'il a l'habitude de travailler avec les médias? Est-ce qu'il a l'habitude de diffuser sa science, de la vulgariser? Pas trop, quoi. Voilà ce que je peux dire.
On a besoin de vecteurs.
Par contre, les relations avec les artistes, ça, je suis complètement d'accord, oui.
Ça pourrait être un problème de formation, peut-être. Dès le début, les jeunes gens qu'on amène à aller vers une carrière scientifique ne sont pas du tout formés à maîtriser des outils pratiques.
Absolument, c'est pour ça qu'il y a dans les écoles doctorales, il y a des cours qui sont faits par Cécile Nord, pour la nommer, qui sont faits justement sur les médias, donc avec le conseiller général de Puy-de-Dôme, quoi. Donc il y a des actions qui sont faites pour former les gens à mieux dialoguer, mieux diffuser. Mais avec l'artiste, moi je peux aller dans votre sens, hein, Claire.
Ouais, ouais. Bon, avant de continuer cette discussion, on va faire un petit détour par l'énigme du mois. Alors ce mois-ci, c'est Jean-Marie qui nous propose un mystère.
Science alors !
Alors effectivement, donc l'énigme du jour cette fois-ci, eh bien, elle est ni mathématique ni historique comme les émissions précédentes. Elle est presque très simple et touche au quotidien. Pourquoi, quand on se regarde dans un miroir, eh bien, quand vous vous regardez dans un miroir, votre gauche et votre droite sont inversées, alors que le haut et le bas ne sont pas inversés? C'est assez intriguant, si vous y réfléchissez un petit peu, il y a une réponse tout à fait pertinente et logique, mais juste pourquoi? Essayons d'expliquer ça. Alors j'invite tous nos auditeurs qui ont un début de réponse ou même la réponse complète à nous appeler au 04 73 90 52 61, à nous appeler, et puis peut-être si vous avez la bonne réponse, vous gagnerez un verre lorsque, après l'émission, on partagera le verre de l'amitié dans un bar près de la radio. Voilà.
Merci Jean-Marie. Alors on va reprendre tout de suite cette discussion. Donc moi je me demandais finalement pourquoi est-ce que les scientifiques parlent peu de leur travail ou ont du mal à aller vers les artistes ou vers des démarches scientifiques pour leur travail. Peut-être que, justement on en discutait tout à l'heure, ils ont peur de ce qu'on peut en faire après. Ils ont peur de mal expliquer ou de laisser passer des choses. Donc comment est-ce que l'artiste s'empare d'un travail d'un scientifique pour en parler, pour le mettre sur la place publique?
Moi, je ne pense pas qu'il y ait une question de peur. Je pense qu'il y a une question de méconnaissance plutôt. Et de lieu où artistes et sciences peuvent se rencontrer. Et je pense qu'actuellement, la plupart des projets qui se font autour de cette question de science ou d'artistes qui travaillent avec des scientifiques, c'est une question soit que le scientifique détient un outil un peu rigolo, complètement fou, et que l'artiste a envie de le développer et l'intégrer dans son spectacle, soit au contraire, le scientifique a besoin peut-être d'utiliser l'art pour dialoguer et vulgariser. Mais il faut des lieux de rencontre. Et ces lieux, en fait, ben, il y a bien science en fait, il y a bien certains éléments qui sont faits, mais je pense que c'est pas une question de peur, c'est plutôt une question de fascination respective des deux côtés, et que cette fascination, s'il n'y a pas à un moment donné la rencontre qui se fait, eh ben, ça colle pas, quoi. Donc c'est plutôt une réflexion autour de ben, comment faire pour que les uns et les autres se côtoient et aillent justement vers ce dialogue et trouvent des bénéfices en fait de chacun à l'un comme l'autre à dialoguer autour de ben, nouveaux outils, d'aller plus loin aussi dans la réflexion, parce qu'on parlait d'un vocabulaire qui était un peu particulier pour les scientifiques, mais tout aussi abstrait pour certains artistes. Enfin, en travaillant parfois avec des plasticiens, c'est chaud. Donc comment faire pour que ça dialogue et que ça puisse être intéressant en termes de construction d'un projet ensemble, quoi.
Alors justement, on a un petit quelque chose à vous faire écouter. C'est un artiste qui, lui, s'est intéressé à un autre artiste. Vous allez voir, vous allez l'entendre faire la présentation de son spectacle. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il utilise le vocabulaire et la culture scientifique pour alimenter sa présentation. Alors j'en dirai un peu plus après, mais laissons François Fabre ou professeur Schmurt présenter sa chronique.
Peut-être connaissez-vous Bobby Lapointe. En tant que chanteur, peut-être le connaissez-vous en tant qu'acteur. Qu'à cela ne tienne, nous allons nous intéresser ce soir à l'aspect mat de Bobby Lapointe. Cet homme d'esprit avait un penchant naturel pour les mots et leur côté farce, et ne pouvait s'empêcher de mettre cette farce à toutes les sauces. Rassurez-vous, il fit le même avec les chiffres. À la fin des années 60, il met au point un nouveau système numérique hexadécimal, le système bibibinaire qui fut breveté en 1968. À l'époque, ce système eut un petit succès d'estime auprès de la communauté scientifique et vit fleurir des applications les plus inattendues. Poésie stochastique. Musique aléatoire. Graphisme architectural. Codification des couleurs. Et j'en passe. Bobby planche alors sur la rédaction d'un ouvrage complet sur le bibibinaire, ouvrage qui ne verra jamais le jour. Cependant, nous avons tout de même de beaux restes. Alors, avant de nous atteler au procédé bibibinaire, imprégnez-vous de ce slogan. Avec le bibibinaire, vous mettez un ordinateur dans votre crâne.
Vous mettez un ordinateur dans votre crâne. Alors c'était un extrait d'une pièce que joue François Fabre qui s'appelle « Si le bibi de Bobby m'était compté ». Il tourne en Auvergne et bien, on précisera sur le site internet les prochaines dates. Il y a la possibilité de le voir. Voilà un artiste justement qui s'accapare la création d'un autre artiste aussi et qui travaille avec les concepts mathématiques exacts, parce que ce qu'il présente c'est tout à fait pertinent, c'est rigoureux en sens mathématique et pourtant et en plus, ou même et logiquement, c'est beau, parce que les mathématiques, c'est beau.
Oui.
Est-ce que vous connaissez, vous disiez hors antenne que vous connaissiez assez bien.
Je connais bien François, parce qu'il a fait théâtre et sciences avec moi pendant 3 ou 4 ans. Je connais bien son spectacle de Bibi Binaire aussi, de Bobby Lapointe. Pourquoi Bibi Binaire, enfin, on ne va pas l'expliquer, c'est le code hexadécimal qu'en effet on utilise dans les ordinateurs. Donc il explique plein de choses sur les additions, les multiplications, et d'une manière très, très poétique et très intéressante. Donc il a repris quelque chose qui avait été fait par Bobby Lapointe et qui monte. Moi je vous encourage à aller le voir. D'ailleurs je vais le faire venir jouer une fois dans le cadre des Assises des Expos Sciences, où il doit venir montrer son spectacle en parallèle avec un petit peu de spectacle aussi de théâtre et sciences. Donc il a un DEA, donc c'est un scientifique, il a un DEA François de météo. Donc ça fait déjà un bout de temps qu'il a passé. Donc c'est à la fois un scientifique et à la fois aussi un artiste. Il a lié les deux. Donc il y a pas de problème pour enfin vous voyez François Fabre, il fallait le voir, c'est un accordéoniste qui est extraordinaire, un chanteur aussi. Donc il y a Vous avez raison de faire de la pub pour lui.
Voilà, quelqu'un qui concrétise un petit peu la passerelle entre les arts et la science, vraiment en tant que personne,
ouais,
finalement, voilà, qui ouais. personnifie ça.
Oui. Donc, je voudrais revenir simplement sur par rapport au mot peur. Moi, c'est, je ne pense pas que... Il y a sûrement, par rapport à certains citoyens, une peur de la science et de la technologie. Ça, c'est difficile parce que ne serait-ce que les OGM, ne serait-ce que même un exemple comme l'atome, ça fait peur, quoi. Ça fait peur si on n'a pas la culture pour essayer de comprendre des choses. Mais bon, même sans la culture, je pense qu'il faut avoir une éducation. Donc là, je rejoins très bien Claire, il faut que les gens soient éduqués, mais on ne peut pas être éduqué en tout. C'est pas possible. Donc, mais c'est avoir une compréhension, c'est-à-dire avoir une éducation pour comprendre des bêtises qu'on nous raconte sur certaines chaînes de télé ou à la radio, pas la vôtre, sur certaines choses. Et c'est cette éducation qui est importante. C'est pour ça qu'il faut vraiment éduquer les jeunes et les expo-sciences et astuces-sciences. C'est aussi ce rôle-là aussi de dire commençons par aller voir les jeunes et les éduquer à la science, à l'art, aux lettres, etc., pour qu'ils puissent savoir prendre de la distance par rapport à ce que viennent nous dire certaines personnes, quoi.
Dans ce que vous avez dit, et puis dans ce qu'on a écouté de François, on a compris qu'il y avait cette notion de poésie qui était présente souvent en art, finalement. Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui manque ? On a parlé un petit peu de sensibilité des scientifiques. Est-ce que ce n'est pas, finalement, des gens... On a l'impression que c'est des gens sans cœur, et puis il leur manquerait une petite fibre en plus ?
Ça, c'est... Vous avez... Là, il nous provoque. Hein.
C'est la provocation pure et dure. Moi, je pense que... Je suis presque persuadée, mais ça vérifie scientifiquement, que les scientifiques qui travaillent avec des artistes sont un peu artistes. Ou du moins ont pratiqué une activité artistique, soit dans leur jeune âge, ou encore, je ne sais pas si tu fais encore du théâtre, Pierre, peut-être.
Oui, mais je fais toujours théâtre et sciences.
Et du coup, je pense que cette sensibilité... Il faut je ne sais plus la question.
est-ce que les scientifiques sont sans cœur ? Est-ce qu'ils n'ont pas la poésie de la vie ?
Oui. Ben justement, je crois qu'on est tous un peu poète et poète-poète, mais en tout cas qu'on a, c'est peut-être la façon de d'écrire, par exemple en science, qui peut être de pas être poétique, mais quand on va plus loin en fait dans le, enfin quand on atteint aussi on va dire une recherche assez poussée, assez élevée, quand on est étudiant, qu'on apprend qu'est-ce que c'est qu'une thèse, faut se gratter la tête pour oh là là écrire des articles, mais j'ai jamais fait ça et tout, c'est super compliqué. Là, la poésie, elle est dure à faire passer. Mais je pense que quand on a passé ce cap de la thèse et de la rédaction et qu'on devient un peu plus libre dans sa recherche, à mon avis, on a besoin de nourrir aussi son esprit et l'art sous toutes ses facettes et sous toutes ses disciplines peut aider à aller vers cette poésie de la science.
Ouais, si je peux me permettre, non ?
Allez-y, je vous en prie.
Je pense que ce n'est pas une question ni de science, ni de rien du tout. Il y a des gens qui aiment la poésie, il y a des gens qui n'aiment pas la poésie, il y a des gens, qu'ils soient scientifiques ou pas. Pourquoi tout mettre dans des tiroirs ? Parce que c'est bien commode ? Il ne faut pas exagérer quand même. Donc, moi, j'ai écrit un article, le dernier article que j'ai écrit, qui était scientifique, je l'ai écrit sous forme d'une pièce de théâtre. Ça s'appelait « Capteur ou censeur ». Et je l'ai écrit sous forme d'une pièce de théâtre. Il y avait une autre... quelqu'un qui présentait dans ce même congrès quelque chose de scientifique. L'annonce qu'il a fait de son article, c'était une poésie. C'est-à-dire qu'il a écrit une poésie par rapport à ce qu'il a démontré concernant les ondes électromagnétiques. Je veux dire, les ondes électromagnétiques, ça donne des boutons à tout le monde, quoi. Ben, tout d'un coup, il l'a mis autrement, quoi, parce que c'était sa sensibilité à lui, quoi. Et je pense que les gens sont poètes, qu'ils soient scientifiques ou autres, quoi. Et la poésie, elle est partout.
Oui, alors en fait, moi, quand je vous entends parler, je trouve ça absolument réjouissant, en fait, de voir des scientifiques qui travaillent avec des artistes, qui nous disent que, voilà, il n'y a pas de différence, chacun est un peu artiste. Mais moi, quand j'ai fait mes études, voilà, d'histoire, bon, en un temps antédiluvien, certes, mais quand même, voilà, nous, enfin, c'est-à-dire que la question, par exemple, de la liberté, elle était complètement opposée à la rigueur scientifique. C'est-à-dire que moi... Enfin, ce discours que vous tenez, je l'ai jamais entendu, mais la liberté, tout ce qui était artistique, c'était vraiment le repoussoir. Et je me demande en fait si finalement cet état d'esprit a quand même un peu pénétré l'université, ou si ces rencontres elles se font dans des lieux, qui sont en dehors en fait, hein, des lieux du savoir par excellence.
Oui, mais bon...
Je pense effectivement ça dépend du contexte. Claire, parce qu'entre Franchère. La question universitaire et pas universitaire... Par exemple, je ne suis pas du tout universitaire. Je travaille avec des écoles d'ingénieurs en aménagement du territoire. Et je crois que déjà, on est sorti des bancs de la fac, entre guillemets, qui a cette image, un peu justement dont vous parlez, de la rigueur. Il faut que l'étudiant, il apprenne d'abord bien à écrire, à bien ouvrir sa bibliographie, à bien faire son travail. Puis après, on verra quoi. Et il y a d'autres contextes scientifiques, peut-être, qui font que, c'est vraiment une hypothèse, enfin une supposition, en tout cas moi dans le lieu où je travaille, qui est l'unité mixte de recherche Métaphore, donc qui est sur le campus de CESO avec AgroParisTech et IRSTEA, où là on a des écoles du génie des eaux et forêts, enfin des gens qui sont ingénieurs de haut niveau, et en master spécialisé, on va dire, bon maintenant super, vous avez tout bien appris, on sort de cet apprentissage, et on va vers les gens, on va vers le sensible, on va apprendre qu'est-ce que les gens veulent de leur territoire, comment ils veulent l'aménager, qu'est-ce qu'ils en pensent. Et je pense que du coup, c'est ce que je disais, il y a un moment donné, on sort du cursus classique et des études classiques et on va vers une recherche, pour le coup, d'une sensibilité, en tout cas géographique, que va permettre ce contexte hors fac, à mon avis. Mais peut-être que sur d'autres disciplines, c'est différent.
Oui et non, c'est-à-dire que bien sûr, il y a ces cours TDTP, mais on commence à sortir de ça. On n'en a peut-être même jamais pénétré complètement. Hein. Alors, au moins, rigueur, je l'opposerais plutôt à doute. Et un scientifique doute énormément. D'ailleurs, un chercheur, c'est le propre du chercheur, c'est de douter. Et par rapport aux études que vous avez eues, il y a d'autres choses qui se font quand même. Les gens, dans leurs études, ils font des projets. Ils font de l'apprentissage par projet, il y a de la pédagogie par projet. Ouais. On leur ouvre l'esprit en leur disant d'aller dans les. Il y a une super bibliothèque sur les CESO et il y a les étudiants y vont aussi. C'est pas la rigueur scientifique, elle est pas si. Le cartésisme, c'est pas quelque chose qui est figé complètement. Donc c'est vrai qu'il faut apprendre un cours, c'est vrai qu'il faut apprendre des formules, c'est vrai qu'il faut apprendre la géographie, il faut apprendre des choses comme ça. Mais n'empêche que quand même, il y a aussi le savoir-faire, le savoir-être, et aussi apprendre à apprendre. Et on essaye de l'inculquer aux jeunes, mais c'est pas facile de l'inculquer aux jeunes parce que, mais de tout temps, même moi quand j'étais, j'ai dit à quoi ça sert, hein ? Qu'est-ce que vous m'apprenez là ? À quoi ça sert ? À quoi ça sert ? On est dans la société du à quoi, quoi. À quoi peut bien servir telle chose ? Mais ça a toujours été un petit peu. Et on s'intéresse moins au pourquoi, au comment, et des choses qui sont essentielles pour un scientifique. C'est ça qu'on essaye d'apprendre aux jeunes à travers peut-être des cours qui sont très rigoureux, c'est possible. Hein. C'est vrai qu'il y a il en faut bien aussi un peu de rigueur. Vous avez aussi de la rigueur ici dans votre, parce que vous avez, je vois que vous notez plein de choses, que vous avez une trace. vous n'aurez pas préparé ça, cette émission en disant les questions à tel temps. Je pense que cette question, c'est aussi de la rigueur, ça. S'il y a pas et un artiste aussi est rigoureux. Il y a de la rigueur partout, comme il y a de la poésie partout, comme il y a plein de choses partout, quoi.
Alors justement, donc on va vous faire écouter un autre extrait de l'interview de Gérard Noriel, donc qui est cet éminent historien et qui participe à une collaboration avec des acteurs dans le cadre d'une pièce de théâtre.
Ce que vous dites également, qui m'a vraiment interpellée, c'est que pour vous, le rôle d'un intellectuel spécifique est de prendre la parole dans le champ médiatique pour essayer de reformuler les questions telles qu'elles sont posées dans l'espace public. Est-ce que vous pourriez nous expliquer cela et est-ce que vous pourriez nous dire si vous y parvenez finalement ?
C'est la grande contradiction de l'intellectuel spécifique. Mais parce que ce que vous disiez très, très justement, c'est-à-dire la nécessité pour l'intellectuel spécifique de reformuler les questions du sens commun pour les transformer en problèmes scientifiques, évidemment, ça le rend difficilement audible dans le grand public. Voyez, imaginez les mathématiciens. Bon, tout le monde accepte qu'on ne comprenne rien à ce qu'écrit un mathématicien. Parce que, autrement, on se dirait, c'est pas un vrai mathématicien. Si je comprends, c'est que c'est pas un vrai mathématicien. Alors que nous, dans le champ des sciences sociales, il y a toujours ce doute sur la légitimité scientifique de nos disciplines. Et donc, comme moi je travaille sur des sujets comme, par exemple, l'immigration, depuis 20 ans, 25 ans, je passe mon temps à dire aux journalistes, mais ce que vous nous dites, ce sont des faux problèmes. Vous voyez ? Et tout mon travail a visé à essayer de problématiser, comme disait Michel Foucault, de transformer des faux problèmes en vrais problèmes scientifiques. Et en même temps, après, dans un cheminement inverse, de faire retour, c'est-à-dire que les connaissances qui ont été produites grâce à cette élaboration scientifique des problèmes d'actualité, faire en sorte qu'ils soient remis à la disposition du grand public. C'est cette gymnastique-là qui caractérise l'intellectuel spécifique.
Mais qui ne doit pas être de tout repos.
Elle n'est pas de tout repos, et ça explique aussi la posture relativement marginale de l'intellectuel spécifique qu'il faut accepter. Et la solution, eh bien, c'est l'intellectuel collectif. C'est en travaillant collectivement qu'on peut résoudre cette contradiction.
Oui, alors justement, à la fin de votre livre, vous esquissez des solutions pour faire émerger les fruits du travail scientifique dans l'espace public. Et donc, vous parlez de cette alliance avec ceux qui savent parler des langages mobilisant les émotions, hein, c'est-à-dire les artistes. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce travail de collaboration donc, dans le domaine du théâtre?
Oui, alors bien évidemment, il y a toute une palette hein, d'interventions. Je pense que, par exemple, l'enseignement est une dimension extrêmement importante, les conférences, enfin. Mais je pense qu'nous sommes nous-mêmes, en raison de notre formation, limités par une vision trop rationaliste, si vous voulez, trop pédagogique des choses. Or, nous savons, et nous avons des multiples travaux, qu'ils soient philosophiques, de l'ordre de la psychologie sociale, etc., qui montrent qu'on peut transmettre une intelligibilité par des formes aussi artistiques, notamment par le récit, par le spectacle, etc. Et c'est ce qui, lorsque j'ai découvert l'importance de cette dimension-là, que j'ai créé une association pour travailler donc avec des artistes et aussi des militants associatifs, et donc nous construisons des projets de spectacles collectifs que nous diffusons. Enfin là, nous avons appelé une conférence théâtrale dans laquelle j'interviens en étant sur scène, mais sans sortir de mon rôle de conférencier, mais avec un comédien et avec un musicien qui raconte l'histoire du clown chocolat. Enfin, c'est un petit peu maintenant, il y a ce film sur la Vénus noire. Bon, c'est un peu un exemple comparable, un peu plus tardif, mais du premier grand clown populaire français qui était un esclave cubain noir, donc qui faisait rire parce qu'on se moquait de lui, mais qui est devenu célèbre en raison de cette... Donc ça nous permet de tirer le fil un petit peu des discriminations, le fil du regard sur l'autre, etc. Donc c'est un aspect très important de mon travail depuis le début. Donc j'essaye de le transmettre comme ça, ça permet de toucher d'autres publics. Mais en même temps, je ne veux pas idéaliser, hein. Je veux dire, ce sont des expériences, j'essaye d'en tenir un compte relativement lucide, mais je pense qu'aujourd'hui nous sommes dans un contexte quand même assez inquiétant, et que chacun d'entre nous doit se bouger, doit faire bouger ses certitudes, doit faire bouger ses habitudes, et donc j'essaie de donner l'exemple entre guillemets en le faisant moi-même, je dirais, par rapport à des choses que je n'avais jamais faites auparavant.
Alors, on vient d'entendre un historien qui raconte en partie comment des artistes et des scientifiques, puisque lui fait la distinction, travaillent ensemble pour diffuser et discuter.
Bon, moi, je vais répondre, mais si vous me lâchez là-dedans, j'en ai pour une demi-heure. Hein. Je peux vous parler de théâtre et sciences. Et je suis un scientifique et j'ai travaillé longtemps avec un monsieur qui s'appelle Bernard Avron. J'ai monté même théâtre et sciences avec Bernard Avron, qui est un nom excessivement connu dans le monde théâtral, parce que son frère a eu des Molières. Et lui, il a travaillé depuis 40 ou 50 ans à créer des pièces de théâtre et sciences où il s'immergeait dans un laboratoire pendant un mois et demi. Il lisait beaucoup et il créait une pièce de théâtre de vulgarisation qui jouait à la Villette et un petit peu partout en France, même sur Clermont-Ferrand. Donc cette notion de théâtre et sciences, elle est vraiment importante. Moi, quand je suis allé le voir il y a 27 ans maintenant, je lui ai dit, ce que je veux, c'est que les gens soient à la fois acteurs, metteurs en scène et auteurs aussi, qu'ils écrivent une pièce de théâtre à partir d'un thème scientifique. Pourquoi ? Pour développer la culture, c'est-à-dire trouver une autre culture, pour développer leur imaginaire, pour développer leur communication. Et pas seulement que des scientifiques, mais dans théâtre et sciences, il y a aussi des médecins, il y a aussi des littéraires, il y a aussi des gens de première année, il y a aussi des doctorants, et tout ça se mélange pour créer une pièce de théâtre qui est un thème scientifique. Cette année, c'est « Électrons, je suis libre », mais l'année d'avant c'était la théorie du chaos, l'année d'avant c'était l'erreur, le doute et le biais. Chaque fois il y a un thème scientifique qui est créé. Bernard a même, je vous avais dit hein, que j'en avais pour un petit moment, hein. Bernard a même évolué par rapport à ça, parce que de plus en plus il y a du théâtre dans les entreprises maintenant, donc il y a beaucoup de gens qui font du théâtre en entreprise, parce que les entreprises se sont rendues compte que d'un point de vue relations humaines, quand on parle des gestions de ressources humaines, c'est chiant les gestions des ressources humaines. Moi, je suis pas une ressource et j'ai pas envie d'être géré. Donc la GRH ras-le-bol, quoi. Donc il y a des problèmes de relationnel. Et là, les techniques théâtrales, l'émotion théâtrale peut résoudre ce genre de problème. Dans les changements de projet aussi, quand on a un changement de projet, etc., il y a des problèmes qui se créent entre personnes, etc. Quand il y a des grandes conférences, il y a des choses qui se font aussi. Et il y a de plus en plus de personnes qui travaillent avec théâtre et entreprise, que ce soit Bernard Avron, et j'en connais plein d'autres aussi. Donc l'aspect artistique et théâtral, il est largement, depuis très longtemps maintenant, dans le monde scientifique. Moi, je donne des cours de théâtre et sciences, j'en sors tout de suite. J'ai 2 jours de théâtre et sciences avec des étudiants de Polytech. Je crée une pièce de théâtre, j'ai commencé à 18h, je suis venu à 19h ici, j'y retourne à 20h jusqu'à 22h pour monter une pièce de théâtre qui va se jouer bientôt. Donc il y a des choses qui se font.
Là, vous décrivez à l'instant, disons, une pluridisciplinarité entre théâtre et puis vous avez parlé des différents domaines de scientifiques. On a l'impression finalement que l'art... les arts, par exemple, prenons le théâtre, est plus facile à combiner ou à faire interroger une science que 2 sciences entre elles. Et finalement, la pluridisciplinarité, on a l'association qu'elle est plus facile entre ce qu'on appelle un art et ce qu'on appelle une science plutôt qu'entre 2 sciences. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
Sauf dans science, alors.
Oui, vous avez raison. C'est ce que je disais tout à l'heure.
Vous avez assez raison là-dessus, parce que c'est vrai que... Bon, le théâtre, je pense que c'est quelque chose qui est assez depuis longtemps développé pour parler, justement. On a le mot, la parole pour vectoriser cette science. Moi, je travaille avec des musiciens et des danseurs et des plasticiens. Donc, il y a un autre travail qui est là un peu difficile, justement, qui est comment faire passer la science sans les mots, mais avec autre chose pour la vectoriser, cette science, et même aller chercher des gens qui ne connaissent ni la science, ni l'art contemporain, et qui vont découvrir le tout en même temps. Et c'est un peu un choc. C'est un peu le challenge qu'on a avec ce festival du Haut Livradois. Et on travaille tous les 2 ans avec les artistes pour monter ça. Parce une année sur 2, donc il y a des spectacles achetés. Et la deuxième année, c'est des spectacles créés. Et c'est vrai que c'est un véritable challenge. Parce qu'autant à travers le mot, on peut penser que c'est simple. Autant à travers la danse et la musique, c'est assez difficile. Donc cette année, par exemple, je disais tout à l'heure, on a travaillé sur un dessin animé dont les dessins étaient réalisés par les gens enquêtés. Travail de chercheur très classique, analytique, d'enquête, à partir de photographies, des entretiens enregistrés, etc. Et les gens donc, sont allés voir leur dessin recomposé en dessin animé avec un musicien. Alors, puisqu'on nomme des noms, j'y vais. De mon mari, c'est simple. C'est Richard Herry, qui est percussionniste, en fait, sur la région, assez connu, et qui travaille justement sur la musique improvisée. Comme si, quand les gens ont raconté qu'est-ce que leur paysage, qu'est-ce que leur territoire de ce festival-là, le musicien devait répondre aussi de manière improvisée. Et en étant à l'écoute du discours des gens et pas du coup du discours du chercheur que j'étais, de traduire ou de transmettre cette information que j'avais recueillie. Et ça, je trouve que cette approche-là, elle est assez touchante, en fait. Et là, on est vraiment dans la sensibilité assez pure pour moi, puisqu'on a vraiment cherché, voilà, une musique, une danse, quelque chose qui n'avait pas les mots, mais qui permettait quand même une traduction du sensible, quoi.
Et donc, par rapport... Un exemple donc, que Claire me rappelait tout à l'heure avec François Bardet, qui est un chercheur, où il y avait aussi un aspect danse. Là, moi, j'aime bien l'exemple que tu as cité.
J'étais danseuse dans ce spectacle.
Voilà, donc elle était aussi dans ce projet où il y avait des caméras qui regardaient la danseuse et qui, en fonction des gestes, créaient de la musique.
C'est-à-dire et le danseur musique, devenait musicien,
voilà,
en fait,
c'est-à-dire le danseur, à l'ordinateur. Voilà, le danseur devenait musicien. Il y avait des caméras, et nous, on fait ça tous les jours, parce que détecter des mouvements, mettre des caméras sur un robot, regarder ce qui se passe autour, on a simplement regardé le danseur, donc c'est les mêmes algorithmes que l'on développait. Et puis après, il y a François Bardet, qui est aussi musicien et scientifique, qui a dit « je vais créer une musique en fonction des mouvements du danseur ». En l'occurrence, en danseuse. Là.
En fait, là, depuis que vous racontez un petit peu vos projets, l'un et l'autre, et vous, Claire, en particulier, j'ai l'impression qu'on tourne aussi autour d'une vertu, peut-être, de cette association entre les scientifiques et les artistes. C'est tout simplement le pouvoir émancipateur à la fois de l'art et du savoir. Enfin, bon, moi, je sais que... Dans mon expérience, ce que j'ai aimé dans le savoir, c'est cette idée que il est émancipateur, en fait. À un moment, on est sujet et pas objet de la connaissance. Et moi, j'ai l'impression que sur ce terrain-là, véritablement, cette collaboration peut être fructueuse, justement, pour rendre ce savoir, aux gens, pour qu'ils le réapproprient et voilà, et qu'ils touchent à cette émancipation.
Oui, je crois qu'effectivement, bon, je crois que vous n'avez pas invité les bonnes personnes parce qu'on est totalement passionnés. Et on va surtout pas vous dire, il faut la science d'un côté et l'art de l'autre. Bien au contraire, on est complètement, je crois, fusionnel avec ces deux concepts de recherche et de science et d'art, pardon. Et la preuve.
Parfait.
C'est qu'une seule unique chose. Mais c'est vrai ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il faut, dans cette question de liberté, d'émancipation, il faut à un moment donné oser. Et c'est pas évident. C'est pas évident parce qu'on s'improvise pas d'un côté chercheur ni artiste. Et pourtant, je pense que autant l'art peut être facile pour aller vers une découverte, autant la science peut paraître hermétique dans cette sensibilité. Mais du coup, je pense que quand on est étudiant, il faut oser vraiment pas faire que les cours, pas faire que aller faire ses partiels ou autre, mais aller visiter des musées, aller voir des spectacles, aller voir le théâtre et sortir et aller peut-être chercher. Qu'est-ce que dans ce langage artistique on comprend depuis sa propre culture, qui est sa culture aussi scientifique et étudiante.
Alors moi, je vais répondre.
Ça va être le mot de la fin parce qu'en fait, on est pris par le temps.
Je vais répondre d'une autre façon. Et c'est sur le partage des savoirs. C'est vrai que on a eu la chance. Vous avez eu la chance d'être une radio. Moi, j'ai la chance de faire des sciences. Il y en a d'autres qui n'ont pas cette chance-là. Pourtant. Ils ont un savoir qui existe. J'ai fait une expérience avec ATD Carmonde. ATD Carmonde travaille là-dessus sur le partage des savoirs. C'est même un truc qui est extrême. Et le savoir entre un scientifique, un grand prix Nobel et un gars qui est sur on me fait signe qu'il faut que je fasse attention, que je fasse court.
Non, aucun souci.
Et donc cet échange, ce partage des savoirs, il est non seulement entre l'artiste et le scientifique, il est entre le SDF et le prix Nobel. Quand vous disiez tout à l'heure que un chercheur n'est pas capable de s'exprimer, écoutez un grand savant expliquer simplement les choses. Il y arrive. C'est moi qui n'y arrive pas parce que je suis trop le nez dans le guidon. Mais le mec qui a pris une distance par rapport à ça, vous avez des prix Nobel qui expliquent et vous avez l'impression d'être intelligent quand vous les écoutez parce que vous avez tout compris. Donc, encore une fois, pour moi, il n'y a pas de problème quoi, majeur. Simplement, on n'est peut-être pas capable de bien le faire. Quoi.
Je suis d'accord.
C'est parfait comme conclusion. À ce sujet, du coup, on mettra un lien sur le site. Il y a lemonde.fr qui commence à diffuser des vidéos de la médaille FIS 2010 qui explique des notions mathématiques assez simples sous des formes de petites vidéos de 3 minutes. Et c'est très percutant, passionnant, super intéressant.
Il n'y a pas que le petit gars du collège de 6e ou de CE1, CE2, CM1. Il explique aussi des choses très simplement en science. Hein. Il n'y a qu'à voir Exposcience.
Mais l'art ne sert pas qu'à expliquer la science.
Non, ouais, je suis complètement d'accord aussi.
Ce sera une superbe conclusion. On écoute tout de suite Bobby Lapointe pour finir en musique.
Moi, les filles de Paris déguisées en glamour, tartines de beauté, margarine d'amour. je n'y tiens pas. Si ce n'était pour soigner mon petit libido, on n'en verrait jamais près de moi au dodo. Mais voilà, j'ai besoin d'être à Paris puisque je suis chômeur. À Paris, c'est payé beaucoup plus cher de l'heure. Sinon, va. Moi, les filles de Paris déguisées en glamour, tartines de beauté, margarine d'amour, je n'y tiens pas. Où es-tu, fille du pêcheur? Toi que j'appelais sirène, tu es reine de mon cœur, de mon cœur, tu es la reine. Je t'ai connu, souviens-toi, tu n'avais pas 15 ans, je venais à la mer avec mes parents pour l'été. Comme je t'ai trouvé jolie, j'ai voulu être aimable, et toi, petite sauvage, tu m'as jeté du sable. Méchanceté. Mais j'admirais ton papa qui avait un bateau, tu admirais mon papa qui avait une auto. Et bientôt, nous étions copains, copains comme chemise et cul. Et quand je suis parti, toi aussi tu as eu du chagrin. Où es-tu, fille du pêcheur? Toi que j'appelais sirène, tu es reine de mon cœur, de mon cœur, tu es la reine. Et depuis tous les automnes et même tous les hivers, quand une chose ou l'autre me rappelle la mer, serre les poings. Non, je n'étais pas bagarreur, je suis pas devenu, mais je veux garder le chaud de tes épaules nues dans mes mains. Oui, je veux garder le chaud de ta peau mordorée, du brillant de tes yeux et des reflets moirés de tes cheveux. Tes cheveux dégoulinants de perles d'eau salée, perles que sur ta peau d'un baiser je volais malicieux. Où es-tu, fille du pêcheur? Toi que j'appelais sirène, tu es reine de mon cœur, tu es la reine. Tu avais promis, souviens-toi, que l'on se marierait, mes études finies lorsque je serai médecin. Médecin, c'est long, bien long, et pour me consoler, prenant un air distrait, tu me laissais cajoler les deux tiens. Mais quand je suis revenu à ce dernier été, prise d'un voyou, tu avais déjà quitté le midi. Ma foi, j'aime trop la mer pour te chercher ailleurs. Heureusement pour moi, il y a ta petite sœur qui a grandi. Elle est fille de pêcheur. Tiens, je vais l'appeler sirène. Elle sera reine de mon cœur, de mon cœur. Elle est la reine.
Science alors !
Alors on revient à l'énigme de cette émission. Je vous rappelle donc la question que j'avais posée tout à l'heure, c'était pourquoi quand on se regarde dans un miroir, eh bien la gauche et la droite sont inversées. On porte notre montre à gauche et dans le miroir elle est à droite, alors que le haut et le bas n'est pas inversé. C'est assez intriguant. Alors est-ce que sur le plateau ici vous avez une réponse, compréhensible à cette question ?
Artistique ?
Ah, pourquoi pas artistique, d'accord.
Je trouve que le reflet dans le miroir est tout à fait poétique.
Scientifique ?
Pourquoi pas, oui.
Ah ben, c'est trop compliqué pour que je l'explique, je ne prends pas assez de distance et je ne sais pas.
Alors moi qui ne suis pas physicien, peut-être je vais pouvoir, du coup j'ai pris assez de distance avec cette question. Comment je l'ai compris, c'est que le miroir il inverse le devant et le derrière. Donc il inverse donc, l'axe perpendiculaire au miroir, je dirais orthogonal si j'étais poli. La gauche et la droite, c'est relatif à la personne qu'on est. Et alors quand on est reflété dans le miroir, bah, nous aussi on est inversé par cet axe. Par contre, si on avait pris l'est et l'ouest, bah, là il ne serait pas inversé par le miroir si on prenait un référentiel absolu. Le haut et le bas, c'est des coordonnées absolues, donc ce n'est pas inversé. L'est et l'ouest non plus, mais la gauche et la droite, c'est relatif au sujet, l'observation qui est reflétée. Donc... il est inversé.
Ça, c'est pas clair comme explication, peut-être.
Narcisse n'aurait pas dit.
Est-ce que vous avez compris?
Et on passe tout de suite à l'agenda avec Claire.
Alors, cette semaine, enfin ce mois-ci même, donc déjà dans deux jours, on va parler des exoplanètes au pôle physique sur le campus des CESO pour les mercredis de la science. Donc, c'est à 14h30, c'est une conférence de Pierre Léna. Et puis pour rester sur le thème art et sciences, le 2 avril à 20h33 exactement au bar des sciences, on parlera musique, est-ce science. Bien sûr, on va parler de l'atelier théâtre et sciences qui du coup se produit le 11, 12, 18 et 19 avril à 20h30 à la Petite Gaillarde. Donc allez-y, c'est la 26e création. Et le Festival Horizon, qu'on n'a pas évoqué, mais qu'on aurait pu évoquer, se tiendra fin août, voire début septembre. Et puis, au pôle physique, on en avait parlé déjà le mois dernier, l'installation par les étudiantes du master gestion de projet art du spectacle qui s'appelle Rêve de science est encore là, donc allez-y, c'est jusqu'au 29 mars. Voilà, alors pour cette émission, donc nous avions sur le plateau Claire Planchat et Pierre Bonton. On vous remercie beaucoup d'être venus.
Merci. On vous remercie de nous avoir invités et on vous dit au revoir.
On a également écouté une interview de Gérard Noiriel que Cécile avait fait il y a quelques années, un extrait du spectacle de François Fabre « Si le bibi de Bobby m'était compté ». À la réalisation ce soir, nous avions Laurent. Nous avons également écouté Bobby Lapointe, « La fille du pêcheur ». Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet sciencealors.fr. Et puis la prochaine émission sera une émission sur le vin et la science, enregistrée le 12 avril, notez-le bien, car elle sera en public. Donc vous pouvez nous rejoindre à la cave M, je ne dis pas son nom, c'est près de la place jaune. Donc essayez de trouver et rejoignez-nous.
Il y aura des dégustations importantes.
Hein. Évidemment.
À
19h. À 19h, oui. Et puis tout de suite, Génération Manga sur Radio Campus.
Science alors!
Nous venons de recevoir du professeur Albert Einstein une lettre sur papier en tête de l'Institute of Advanced Study, School of Mathematics, Princeton, New Jersey.
Encore impensable il y a quelques décennies, la navigation dans l'espace extraterrestre est à l'ordre du jour.
It is intelligent. With its the ability to learn from experience, to plan ahead.
La question se pose, quelle sera la machine parlante de l'avenir?
Éprouvette et velocotelée.